des questions?
Plusieurs remarques, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Mais ce que tu as dit a fait un écho très fort sur le rôle des financements européens dans la recherche sur le genre. Parce que ça, je pense que c'est dans beaucoup de pays européens, en tout cas en France, il y a aussi un changement. Il y a avant les financements européens, après les financements européens. Parce qu'en France en tout cas, mais ça doit être pareil en Grèce, ces financements pour les questions des femmes, plutôt les questions des femmes, du genre, étaient pour la recherche, mais aussi dans la société civile. Et donc ils ont donné lieu à beaucoup de financements, de chargés de mission à l'égalité, dans toutes sortes d'institutions. Donc ça a aussi fait bouger et va dans le sens de ce que tu disais, que c'était plus audible quand on faisait un projet de recherche pour les gens, parce que voilà, il y avait des chargés de mission aussi dans les institutions, etc. Donc ce rôle de l'Europe au tournant des années 2000 me paraît quelque chose d'extrêmement important, ouais, qui a changé complètement les perspectives et peut-être aussi permis qu'apparaissent les financements, des structures, etc., les programmes de recherche en Grèce. Une autre chose, et je pense que c'est minoritaire partout, mais il se trouve que c'est le champ sur lequel je travaille qui est plutôt l'espace, les villes et le genre. Et il y a un petit peu de recherche sur ça en Grèce. J'ai participé à plusieurs programmes et donc je connais un certain nombre de femmes chercheurs dans ce champ-là.
Dina Vaio. Connaître Dina Vaio, oui, évidemment.
Et puis Sassarada.
Oui, oui, tout à fait.
Et donc, tu as pas parlé de ça, mais je pense que ça reste très minoritaire probablement en Grèce, mais c'est lié avec les financements européens, puisqu'elles sont venues discuter avec nous à travers des financements européens, et c'est quelque chose que je trouve très important. Et après, l'autre aspect, mais c'est peut-être pour relancer aussi la discussion, je trouve que l'analyse que tu fais de la période récente et de la... la crise financière ou la crise des réfugiés qui a une incidence qui fait reculer en fait dans l'ensemble social la recherche, mais dans l'ensemble social aussi la question du genre, je dirais qu'on pourrait faire une comparaison tout à fait similaire en France, peut-être moins sur le nombre de publications ou des choses comme ça, mais en tout cas sur la façon dont l'ensemble social réagit par rapport à ces questions-là. Et je crois que c'est... Enfin, j'ai coutume de dire un peu de façon simpliste qu'on a, ça régresse, on a l'impression que toute la question régresse, mais pas seulement dans la recherche, mais dans l'ensemble de la société. Et je trouve que tes remarques étaient particulièrement judicieuses et qu'on devrait comparer dans nos différents pays pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que certes, la crise financière a probablement des conséquences, mais je trouve qu'elle a bon dos aussi, la crise financière, puisque on la voit jouer dans les financements, mais elle joue pas directement comme ça sur les réfugiés, par exemple, puisqu'on est très postérieur à la crise financière, et les liens ne sont pas du tout économiques, mais plutôt politiques. Et donc là, il y a bien des choses à réfléchir. Je suis particulièrement intéressée parce que la Grèce est évidemment aux avant-postes de la question des réfugiés, bien davantage que la France. Et je suis intéressée à ce que tu nous dises un peu comment est traitée cette question, où effectivement on va mettre la lumière sur les familles, les enfants, la maternité, etc. Et comment les choses se passent sur cette question.
Comment faire, je ramasse cette question.
Tu réponds, on va faire comme ça, un échange, ouais. Et puis ensuite d'Alenda, ouais. Une question.
Ouais.
Donc tu
d'accord.
Veux prendre Sylvette et puis après d'Alenda.
Je pourrais parler pendant longtemps sur ces questions-là, mais je ne le ferai pas. Et d'abord, les financements européens, c'est vrai, il y a eu aussi beaucoup de financements européens. Pas tellement en ce moment, depuis la crise, pas tellement, mais il y a eu dirigé vers la société civile. Les deux ne sont pas, c'est-à-dire le financement pour la société civile et celle pour la recherche, ont rarement été associés. ont rarement influencé les uns des autres, et si ce n'est qu'il était hostile aussi. Enfin, les gens qui travaillaient dans la société civile n'étaient pas très intéressés par la recherche, si je peux dire. Et, bref, alors oui, ça c'est important. Et maintenant, c'est très rétréci. Il n'y a presque pas, ou il y a très peu. L'espace est important. Je n'ai pas entré dans les différents champs de recherche. J'aurais pu les multiplier, il y en a plusieurs, et des experts. C'est vrai que l'espace, parce qu'il y a eu depuis les années 80, il y a eu des femmes telles Sasa et Dina, qui étaient des universitaires actives dans la recherche sur les femmes et le genre, et qui ont promu ce champ de recherche considérablement. Mais c'est aussi, ça confirme ce que j'avais dit à un certain moment, que il n'y a vraiment pas tant de renouvellement. Il y a des femmes qui ont fait partie du mouvement féministe, en fait, des années 70 et 80, et qui sont toujours là, nous sommes toujours là, vieillis, mais là, jusqu'à prendre la retraite dans quelques années, et qui maintiennent, nous maintenons, si vous voulez, l'intérêt au niveau de la recherche sur certains sujets. Et il y a aussi quelques renouvellements, mais dans d'autres champs. Puis la crise, à mon avis, bon, je le dis comme ça, je parlerai de ça demain plus amplement, la crise a renforcé ce que j'ai dit, la renaturalisation des différences sexuelles. Et le fait qu'il y a déjà un bon moment, il n'y a pas un mouvement féministe pour le contester, fait les choses encore plus difficiles et plus compliquées. Pourquoi est-ce que la crise a renforcé la renaturalisation? Parce que elle a limité la possibilité de contester l'état établi, les causes telles qu'elles sont. Et les jeunes gens qui partaient jeunes, enfin qui partaient de chez eux, maintenant retournent au foyer parental parce qu'ils n'ont pas de choix. Au lieu de s'expérimenter à d'autres modes de vie, ils retournent à ce qui est connu et sûr. Il n'y a pas d'expérimentation de mode de vie ou de comment dire prendre de risques. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Dans cela, la crise des réfugiés, ça jouait un rôle encore plus, si vous voulez. Comment dire, conservateur, disons, de plusieurs manières. Et l'année dernière, par exemple, où à peu près 1 million de réfugiés ont passé à travers la Grèce, il y a eu un mouvement considérable d'apport de solidarité envers les réfugiés. Un mouvement incroyable qui a cessé au moment où les réfugiés itinérants ont fini d'être itinérants et ont devenu sédentaires parce qu'ils ne pouvaient plus partir. Et maintenant, la Grèce a 50 000, 60, presque 60 000 de réfugiés, la plupart syriens, mais pas seulement, réfugiés et migrants, comme on le dit, sur place, qui ne peuvent plus bouger. Alors maintenant, on est déjà dans un renversement de cette solidarité. Il y a des problèmes au niveau local plutôt sérieux. L'autre jour, c'était l'inauguration d'une très large activité pour encadrer les enfants, les jeunes enfants de réfugiés dans les écoles. De manière complémentaire, pas dans les écoles telles qu'ils sont, mais dans l'après-midi. Et il y a eu des tollés par des communautés locales qui ne voulaient pas des réfugiés parce qu'ils sont pas propres, ils vont nous tuer, enfin, tout ce que vous voulez. Et, alors, il y a un basculement, et là-dedans, les mères et les enfants, évidemment, pendant l'année dernière, quand les gens se noyaient dans la mer, l'image des enfants noyés, c'est vraiment les femmes qui pleuraient, les enfants noyés. Enfin, c'était vraiment l'image symbolique par excellence de la douleur, avec toutes ces connotations religieuses et naturalistes que vous voulez. Alors, il y a vraiment un renforcement du naturalisme, si j'ose dire. Évident. Pour le pire et le meilleur. Hein.
Oui. Merci, Effie, pour cet état des lieux très exhaustif. Donc, du genre, enfin, de la recherche en genre, en Grèce. J'ai quand même trouvé beaucoup de ressemblances et de points en commun avec la Tunisie. J'y reviendrai peut-être. J'ai bien saisi l'idée, enfin c'est une information, que le champ de recherche en genre a été bien établi grâce surtout au financement européen en Grèce.
Temporairement.
Oui, c'est-à-dire, comme tu l'as bien dit, ouais. C'est des années 2000. Oui, c'est. Ça m'a étonnée quand même, mais là, tu viens d'en parler un tout petit peu dans ton topo, de ne pas du tout faire référence à l'influence. Des féministes, du mouvement féministe, des femmes académiciennes féministes dans la mise en place d'une recherche, même si elle n'est pas institutionnalisée dans l'université en Grèce d'une manière générale. Parce que, et je sais, je connais quand même, il y a pas mal de chercheurs grec, bien avant les années 2000 et bien avant la mise en place de masters en genre, qui ont commencé par des recherches sur les femmes en histoire. Étant historienne, donc je suis un peu quelques actualités de la recherche grecque. Donc moi, ça m'a laissé sur ma faim. Avant cette influence peut-être importante de ce financement européen, quand même, il y a eu beaucoup de... et c'est le cas de la Tunisie, enfin, pas pour le financement, pour l'université. Tout ce qui a été fait, c'est vrai, c'est des initiatives individuelles, mais beaucoup de recherches éclatées, certes, mais beaucoup de recherches en mais histoire.
Mais je l'ai dit.
Oui, mais... Il m'a semblé que la recherche en genre, elle a été bien établie avec le financement européen. Excuse-moi, peut-être je n'ai pas très bien... Un autre point, ça m'a aussi un peu étonné, cette étanchéité. Donc ça va dans le même sens. Étanchéité entre les acteurs de la société civile et notamment le mouvement féministe dans la société civile et les acteurs de la recherche, parce que au fait, c'est vrai que je pars de l'exemple tunisien, mais je sais que c'est à peu près à peu près la même chose. En France, en Tunisie, en tous les cas, les premières recherches, c'est les féministes, c'est l'engagement, en fait, l'engagement des femmes. Et c'est pour cette raison-là qu'on trouve plus de femmes impliquées dans la recherche en histoire ou ailleurs, des femmes et après du genre. Une dernière remarque, c'est vrai, j'imagine bien que la crise était bien sûr un moment ou un temps pour le renforcement de la naturalisation, renaturalisation, mais en même temps, il y a, c'est un peu paradoxal. En même temps, ce moment de crise, il est aussi un moment propice pour que les inégalités, les discriminations à l'égard des femmes deviennent plus visibles. Donc leur prise en compte par la recherche, en principe, du moins je parle en principe, est encouragée. Le cas aussi de la Tunisie, bon, nous vivons pas la même, en tous les cas, nous vivons une crise, et je vous dis qu'il y a pas peut-être de l'institutionnalisation, mais beaucoup qui se réfléchit, se dit, s'écrit autour de ces thématiques, parce que ce moment de crise, il met encore plus en relief la pauvreté au féminin, le chômage au féminin, d'où le questionnement. Parce qu'il y a une amplification de ces discriminations. Donc, c'est vrai que c'est un moment de retour, de renaturalisation, mais en même temps, c'est aussi un moment qui pousse vers plus d'attention à ces discriminations. Voilà. Bon, pour la Tunisie, d'accord. Voilà, c'est juste pour
merci discuter de faire un peu. Parce que j'ai dû faire un choix, faire l'état des lieux des 20 dernières années ou faire l'historique des 35 dernières années. Et comme je l'ai dit, j'ai publié pas mal en français sur la première phase qui est tout à fait ce que tu as dit. L'histoire des femmes dans sa première phase, mais aussi les études sur les femmes dans quelques autres disciplines, ont été l'œuvre des féministes de l'époque. Mm-hmm. Maintenant, quand on des membres de ce mouvement féministe qu'il y avait après 1974. Maintenant, il ne faut pas exagérer dans le cas grec. Il y avait un mouvement, c'est indiscutable, mais on ne peut pas parler de mouvement massif. Mm-hmm. Aussi, entre autres, parce qu'il était ce mouvement féministe, dès le début, partagé entre deux volets, disons. Un, le mouvement féministe, autonome, etc., comme on le connaît, et l'autre, un mouvement de femmes institutionnalisées, avec des relations avec des partis politiques, interlocuteurs du pouvoir, etc. Et dès le début, il y avait cette dualité. Si tu veux, et en rapport pas toujours... Bon.
Comme en Tunisie.
C'est évident, oui. Oui, je sais qu'en Tunisie, il y avait un mouvement comme ça institutionnalisé. Alors, au début, l'histoire des femmes, c'était l'œuvre des femmes qui s'identifiaient en tant que féministes. Mmh. Et pendant plusieurs années. Et tout le bilan que j'ai fait, et j'ai publié il y a, dans le livre que j'ai publié en français, et ça se rapporte à cette période. Mais on est au-delà de cette période. Il y a beaucoup plus d'hommes et de femmes qui font l'histoire du genre et n'ont aucun rapport avec le féminisme. Mm-hmm. Ne s'identifient pas avec le féminisme, nécessairement. Certaines le font, mais c'est pas nécessaire. S'identifient plutôt à ceux qui se seraient disons une théorisation de l'identité sexuelle, orientation sexuelle, disons, enfin, le, comment ça s'appelle,
le LGBT.
Voilà, que du féminisme. Mm-hmm. Ce qui, à mon avis, est une question à discuter par rapport à la direction dans la théorisation du genre va ces derniers temps. Mm. Alors, j'espérais que c'était clair, que j'avais fait le choix de ne pas parler de cette première période. Alors, l'histoire des femmes et du genre, parce que moi je prétends que c'était l'histoire du genre, ce que nous faisions au début, et pas une histoire des femmes, comme Radi l'a dit, très spécifique, mais une histoire du genre.
Des femmes et du genre.
Comme on l'identifie. Et je fais le choix de ne pas parler de cette période. Et, alors, parce que le mouvement féministe grec était ce qu'il était, l'ampleur dans la société civile de la composante autonome féministe est quelque chose à débattre, n'est pas évidente. Hein. Et ce qui s'est fait au niveau social et qui a été important et s'est fait de l'autre composante et a cessé d'être fait à partir des années 90. Il n'y a rien, presque. Hein? Alors le deuxième point, c'est moi je ne suis pas d'accord parlant du cas grec. Et j'ai essayé de le dire. La crise a fait le genre davantage invisible qu'il ne l'était. Et aussi, au niveau de la recherche, il y a plus de recherches faites, je l'ai dit, mais il n'y a pas de recherche dirigée vers la crise. La crise, qui est un sujet de recherche très intense en ce moment, le genre est très peu représenté dans cette recherche.
C'est là.
C'est là.
Oui, absolument.
Et peut-être une des raisons, c'est que la sociologie ne s'intéresse pas.
Certainement. Je trouve que c'est ça la réponse.
C'est peut-être une des raisons. Oui,
c'est le cas de la sociologie. Ouais, c'est voilà. Le terrain des sociologues.
Mais la sociologie grecque ne s'intéresse pas.
Bien. Merci.
Ouais, merci.
C'était juste pour souligner que ce qu'on appelle la crise au sud et au nord de la Méditerranée, c'est pas la même chose.
Ouais, exactement. Oui, exactement. Ouais, tout à fait.
Autant, enfin, pour ce que j'en sais, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais la crise au sud de la Méditerranée, c'est plutôt, je schématise, hein, quelque chose comme un mouvement révolutionnaire, un mouvement de changement, etc.
Pas seulement.
Alors que la crise...
Non, pas seulement. Hein.
Non, pas seulement, mais il y a cette dimension. Alors que la crise au nord de la Méditerranée, c'est une très grande augmentation des conservatismes.
Mais non plus, non, je dirais.
On peut en débattre. Mais
on va débattre de ça demain.
Ouais.
Alors, parce que... Parce que, non plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Oui.
Parce qu'en ce qui concerne, par exemple, le renversement du régime, on le voit ça aussi, volonté de changer, renversement du régime, et apporter autre chose. En Grèce, on l'avait vu aussi en Catalogne. Alors, ma question concerne plusieurs choses, mais je vais vite. J'aimerais savoir quel serait le rôle de l'Église, le poids de l'Église, comme en France. Il y a le poids de l'Église, pas seulement dans les études, dans la manière d'intervenir auprès de tout ce qu'il y a comme genre. Ce mot genre, ça fait peur. Pour certains secteurs du pays en France, l'Église, mais aussi tous les mouvements, encore une fois, les conservateurs. Alors, quel serait le rôle de l'Église en ce qui concerne les études sur le genre, la manière que perçoit la société vis-à-vis des questions de genre. Ça, c'était une question. Aussi, en ce qui concerne, l'année dernière, on avait entendu une communication très intéressante. C'était organisé par FSJ sur les masculinités, la construction des masculinités en Turquie par le passage de l'armée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
l'armée
en Turquie?
Ouais.
Alors, être un homme,
service militaire.
Être un homme vis-à-vis de son service militaire, ce n'est pas la même chose avant et après. Il y a, comme, il y a une transformation de la manière de se percevoir vis-à-vis de ce passage. En Grèce, quelle serait la situation aussi? J'aimerais savoir...
Par rapport à la masculinité?
Par rapport à la masculinité. Est-ce qu'il y a eu des études sur ça? Est-ce qu'il y a... une manière spécifique de regarder cette question. Bon, j'ai plusieurs questions déjà, il y en a ces deux-là. Et aussi, au tout début, tu as parlé de la difficulté de traduire le mot genre, gender, enfin genre, en grec. Et donc, j'aimerais savoir, c'est pas que je comprendrais si tu me le dis en grec, mais quelle est la manière de le traduire? Est-ce qu'on prend le mot genre et on fait quelque chose grec avec, ou est-ce que c'est autre chose? Parce que dans plusieurs langues, on ne le dit pas genre, on va dire étude sur, je ne sais pas, l'identité sexuelle de la personne ou quelque chose comme ça. Donc ça, oui, ça m'intéresse beaucoup de le savoir.
D'accord.
Je crois que ah oui, et puis la toute dernière question, c'est lié à la politique. Parce que c'était en filigrane tout le long de ta communication. Au tout début aussi, tu as dit, il semble plus difficile de définir aujourd'hui le mot genre qu'il y a 20 ans.
C'est pas moi qui le dis, c'est une collègue. Oui, mais,
une collègue qui a dit ça. Ah oui, c'est sûr, avec tout le développement de la recherche, la manière de réfléchir, l'évolution épistémologique, de voir la chose. Alors, si on dit ça à un chercheur ou une chercheuse ou un chercheur grec qui n'est pas spécialiste de la question, est-ce que ça lui dit quelque chose?
Si on lui dit genre, tu veux dire?
Il y a 20 ans et maintenant.
Ouais.
Si on peut reculer le temps et puis il y a 20 ans, on commence à parler de la question ou du champ de recherche genre vis-à-vis de quelqu'un qui ne travaille pas sur ça. Et si on le dit maintenant, 20 ans plus tard, en Grèce plus particulièrement, est-ce qu'il y a vraiment une différence nette? C'est intéressant.
Ouais. Bon, je vais faire vite l'Église.
Oui.
Il faut savoir que l'Église orthodoxe est très différente de l'Église catholique. Et son emprise dans la vie quotidienne des gens est tout à fait différente. Mm-hmm. Et il y a une religiosité laïque, laïque populaire, pas laïque, populaire. L'orthodoxie est une religion populaire. Les gens aiment garder leur... pratiques, oui, les rites de la religion ne supportent pas que leur religion soit dénigrée ou mise en question ou en danger, mais ils s'en foutent à part ça. L'Église ne dicte pas la vie des gens en Grèce. Et son emprise dans la vie quotidienne est très, très étroite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conservateurs qui écoutent les évêques, mais parce que l'Église est extrêmement conservatrice en Grèce. Et il y a des évêques qui disent, enfin, publiquement des choses ignobles, sans qu'il y ait des conséquences. Mais ignoble, carrément. C'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la recherche, il n'y a pas eu de recherche sur le rôle de l'Église jusqu'ici. Pas du tout. Et c'est récemment, je ne l'ai pas dit, mais dans ce colloque sur la masculinité dont j'ai fait état, il y a eu pour la première fois, il y a une femme qui a fait des études religieuses, qui est féministe, une jeune femme, et qui étudie justement le rôle du genre dans l'Église. Elle est presque la seule, sinon s'il n'y a pas une ou deux personnes de plus. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas quelque chose... C'est un sujet important au niveau de vie historique, mais au niveau de, et aussi au niveau du genre pour mettre en exergue le conservatisme et le caractère réactionnaire de l'Église. Mais il faut savoir que son emprise est limitée. D'accord ? Maintenant, j'ai parlé de ce colloque sur la masculinité qui était important parce que c'était le premier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études déjà. Plusieurs gens ont fait des recherches, soit anthropologiques, soit historiques, sur la masculinité et ont publié, moi-même aussi. Maintenant, dire qu'il y a un modèle de masculinité en Grèce, moi je ne le ferai pas. Et les anthropologues parlent... Je ne vais pas risquer à schématiser parce que un des apports de ce colloque, comme d'autres, c'est de mettre en exergue que la masculinité plurielle et pas singulière.
Est-ce que le service militaire est obligatoire?
Alors voilà, le service militaire est important.
C'est obligatoire?
C'est obligatoire pour les hommes, oui. C'est important. Ça l'était beaucoup plus qu'il le n'est maintenant, parce que maintenant c'est 9 mois. Il y a. Mon frère est allé pendant 2 ans et demi, alors ça, c'est différent. Et mon frère est né, je veux dire. Alors, oui. Quelqu'un qui. Ça fait déjà plusieurs décennies. Mais c'est un moment important pour les hommes. Ce moment de qui promouvoit la bonding, comment dire, le male bonding,
les liens
la sociabilité masculine,
non c'est bonding, c'est solidifier entre les gens.
Je parlerai demain par exemple par rapport au militarisme, que, à mon avis, une terre tombée de la crise a été dans la première période, plus maintenant, mais dans la première période, la période révolutionnaire de la crise, c'est-à-dire de résistante, si tu veux, a promu le discours militantiste, militariste et masculiniste de la résistance contre la pauvreté, qui a aussi contribué à ce que j'appelle l'invisibilité du genre, parce que être contre les mesures d'austérité se faisait de manière et d'un discours militariste.
Mais justement, je voulais en suivant dans la presse, du point de vue français, d'une presse francophone, si on comparait ce qui était dit par exemple de Podemos et de Syriza.
De Podemos. Non, pas. Syriza ne fait pas part de ce que je viens de dire.
Non, ouais. Juste Podemos et Syriza, c'est très intéressant parce qu'autant Podemos, on avait le sentiment de ce mouvement très genre, justement. Avec la multiplication d'images d'hommes aux cheveux longs, de femmes donnant le sein au Parlement, de réflexions, de choses très participatives, de tout un discours à la fois écolo, enfin, je dis bien de France. Hein. Et à côté de Syriza, moi j'avais le sentiment d'avoir un discours extrêmement virilisé, d'ailleurs incarné par des hommes très virils. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les différents hommes qui sont arrivés. Premier ministre grec, etc., il y avait toujours une sorte de surenchère virile, plutôt dans le genre Poutine, c'est-à-dire... Non, mais il y avait quelque chose, une très grande virilité par rapport, par exemple, au responsable de Podemos, qui fait un peu petite crevette à côté, Donc, y compris dans les postures physiques et dans la façon d'en jouer, il y a quelque chose, en tout cas, que ce soit l'ancien Premier ministre ou le ministre des Finances, il y avait une sorte de survirilité, d'ailleurs, même dans le rapport avec leurs femmes, etc. C'est-à-dire une mise en scène qui arrivait juste en France, de quelque chose qui était dans une démonstration. Et c'est très intéressant de voir ces deux mouvements qui, en plus, pour la France, est donné un exemple. C'est-à-dire que la France se rêvait à un moment donné, le Front de Gauche, de montrer à la fois Podemos, mais du debout, de montrer à la fois Podemos et on avait deux modèles très différents, enfin il me semble, deux modèles incarnés très différemment, avec une Espagne où plus métissée.
Vous savez, avec ce ministre super sexy. Qui,
comment il s'appelle là,
non, mais c'est lui qui se mettait
en
t-shirt moulant, il se met sur
l'ex-ministre
de France. On n'arrêtait pas de nous dire pas de cravate, parce que nous, un homme politique,
genre avec cravate,
c'est cravate.
Ouais.
Donc, oui, mais il y avait un jeu médiatique qui jouait, et puis même dans le face-à-face, par exemple, avec l'Allemagne, et donc avec Angela Merkel. Il y avait aussi, il me semble en tout cas,
un investissement. D'accord. Non. Tu es tout à fait d'accord.
Et en plus, de l'autre côté, il y avait Hop Doré, qui était quand même juste la totale du point de vue du masculinisme et de l'ultra-virilité. Hop Doré, alors en français, c'est le mouvement d'extrême droite.
Ah, l'Aube Dorée, oui.
Et là, qui était...
Oui, tout à fait. Ouais,
un surinvestissement de vie. Ouais. Et par ailleurs, pour avoir discuté avec des amis grecs, filles, elles étaient elles-mêmes dans l'intégration, comment je veux dire ça, c'était pas leur place. Enfin, qu'il y avait en tout cas dans la rue, c'était pas leur place. Et que leur place, finalement, elles l'ont trouvée dans le militantisme auprès des réfugiés. Moi, j'ai beaucoup de copines qui, dans un premier temps, n'allaient pas dans la rue, etc., parce que c'était violent, parce qu'il y avait des affrontements, il y avait du corps à corps, et donc il y avait des choses assez viriles, notamment dans les milieux d'extrême gauche ou d'extrême gauche dans lesquels elles évoluent. Alors qu'aujourd'hui, elles ont retrouvé une place dans le militantisme, justement aux côtés des réfugiés. Et qu'elles-mêmes, alors même.
Tout à fait dans le
sujet. Oui, c'est ce que tu disais. Hein, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends, de loin.
Non, c'est vrai que Syriza n'est pas un mouvement féministe. C'est vrai. Et c'est aussi vrai que l'image, le symbolisme de Varoufakis n'y est plus. Enfin, c'était un moment très particulier. Et il y a des femmes, des parlementaires de ce mouvement qui parle au nom du féminisme même, ou des valeurs d'égalité, mais ce n'est pas son point fort, ça c'est vrai. Et d'autre part, il faut distinguer des moments, il y a des phases.
Tout à fait, oui.
Alors, il y a eu une première phase
de résistance
et de vraiment de corps à corps et même des affrontements dans les rues.
Résistance à l'Europe aussi.
Tout à fait. Parce que la résistance contre les gouvernements du moment, c'était aussi une résistance contre les mesures d'austérité imposées par l'Europe. Alors, c'était un moment très très viril. Et moins viril, c'était le deuxième moment, qui était le moment de la place, des places, comme on dit, hein, le moment des rassemblements massifs dans les lieux publics et des discussions. Il y avait une sorte de la place publique centrale d'Athènes, une sorte de délibération continue tous les soirs et régie par l'égalité et l'autonomie de base, refusant tout mainmise de parti ou autre, aux journalistes, disons. Ça cessait aussi. Et maintenant, on est dans une troisième phase, qui est celle d'après Syriza, parce que ces deux phases étaient avant, qui est une phase où l'Aube Dorée n'est plus dans la rue, parce qu'elle est au tribunal, et qui est une phase où la gauche est soi-disant au pouvoir, mais on...
C'est pas sûr que ce soit gauche. On connaît bien ça.
D'accord. Moi, je prétends que ça n'a rien à voir avec François Hollande, quand même. Ce n'est pas la même gauche. Mais, ceci dit, il y a là des points sensibles. Alors, on est maintenant, depuis un certain moment, dans une phase où rien ne se passe au niveau public. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de rassemblement, il y a quelques grèves, il y a une mouvance de jeunes, surtout, d'extrême-gauche, entre guillemets, ou anarchistes même, qui fait quelques interventions et qui surtout a été investi dans le mouvement de solidarité, avant la réflexion de solidarité envers les nouveaux pauvres, et puis ce mouvement qui a été élargi pour inclure les réfugiés. Et c'est vrai que dans le mouvement des réfugiés, il y a eu un nombre énormément de gens qui ont été investis partout dans la Grèce, en direct, en contact direct ou indirect avec les réfugiés d'ailleurs. Mais à mon avis, ça contribue aussi à ce que j'appelle la visibilité du genre et la renaturalisation. Parce que ce que tu vois, c'est les femmes nettoyant les lieux. Arrangeant les donnant à manger, maternant les enfants, etc. Et les hommes gérant et donnant des ordres
partout. Les papiers.
Est-ce que tu ne dirais pas que ça fait une quatrième période par rapport à ce
oui,
que tu
dis? C'est vrai,
cette
c'est vrai.
Il y a
tout à fait. Et là, on est dans une cinquième parce que là, on est déjà après la solidarité.
Oui, voilà.
Comment dit le genre en grec?
Alors le genre, oui, c'est vrai. Le genre, la traduction exacte du genre, le genre grammatique, hein, est avec le mot yénos. Yénos est aussi le mot utilisé pour parler de la lignée et aussi de la nation, de la lignée nationale. Alors, on parle dans la littérature grecque, dans l'histoire grecque, de yénos ton Ellinon, genre des Grecs. Ce qui veut dire l'existence, l'historicité de la grécité des anciens jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'existence, soi-disant, d'une entité des Grecs, inchangeable et immuable par le temps, depuis... Hein?
Je dis, ça renvoie à grécitude.
Ah.
Grécité. Ou la grécité.
Grécité, oui. Alors, ça crée des confusions. On peut pas, ce mot est tellement chargé en grec. Par cette association qu'il est impossible de l'utiliser. On a essayé à un certain moment, quelques-unes d'entre nous qui faisions des traductions ou qui essayions d'écrire en grec sur des choses. Moi personnellement, j'ai utilisé à un certain moment le mot yénos pour parler du genre. Et plusieurs personnes utilisent un complexe qui est le mot du sexe, philo, mais qui n'est pas sexe, hein, et qui est le mot de sciences naturelles, si vous voulez, pour indiquer le genre et le sexe, en mettant le social, sexe social.
Comme en arabe, c'est la même chose.
Mais le problème avec ça, c'est que nous savons depuis un certain moment que plusieurs études là-dessus aussi, que le genre n'est pas seulement social est aussi culturelle, est aussi autre chose. Mmh. Alors, c'est très restreint. Et alors, on a fait un choix à un certain moment. Celles qui nous occupons de ça. Et nous utilisons pour genre le même mot que sexe, en indiquant que c'est un mot complexe qui ne veut pas dire sexe. Que le mot philo, qui est le même mot en français ou en anglais, le sexe est le même mot pour désigner le genre que pour désigner l'acte. Ceci n'est pas le cas en grec. Alors le mot philo est tout à fait dissocié de l'acte sexuel. Hein? Et ça aide. Alors, nous avons dit et nous avons démontré que parlant de philo, alors de ce mot qui veut dire sexe, et parce que sexe n'existe pas en fait, parce que le mot contient aussi bien la désignation, la morphologie, si vous voulez, biologique, mais aussi les connotations sociales, culturelles, etc. Alors, et on l'a imposé, finalement. Tout le monde parle de ça.
Philo.
Il y a juste quelque chose. Il y a un film qui a été montré par Laurence Hérault, c'est un sociologue, et c'est très intéressant, c'était « Mon sexe n'est pas mon genre ». Aussi, ça donne, parce que c'était un homme qui... C'est une femme qui vit comme un homme, mais ce n'est pas vraiment un trans. C'était autre chose encore. Mais mon sexe n'est pas mon genre. C'est pas vraiment transgenre, mais oui, quelque part. Donc, c'est mon sexe n'est pas mon genre. Et ça, t'es vraiment.
Mais il y a aussi le problème. Il y a aussi le livre. Je ne sais pas s'il est traduit en français. Le livre de Thomas Lacœur. Voilà. Oui. Et lui, il fait l'inverse. Alors, ça, il a été traduit en grec, ça crée des problèmes, à mon avis, incroyables.
Moi, j'avais juste une question très conjoncturelle. Est-ce qu'il y a eu des postes fléchés genre ? Des postes universitaires ?
Non. Jamais. Non, et si, il y a une ou deux.
D'accord. Ok. Est-ce que. Parce que du coup, en France, du point de vue institutionnel, à un moment donné, enfin même toujours d'ailleurs, on s'est dit le genre est le lieu idéal de l'interdisciplinarité entre les SHS et les sciences expérimentales. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous avez eu des incitations institutionnelles européennes, par exemple, ou pas? Et du coup, est-ce qu'il y a un dialogue qui s'est noué, notamment avec les sciences expérimentales, autour de ces questions-là et qui ont permis, du coup, d'ouvrir des nouveaux champs de
sciences expérimentales, psychologie,
vraiment médecine,
biologie,
biologie, etc. Ah.
Non, que je sache.
D'accord. Et enfin, hier, il y avait un article très intéressant dans Libération autour de la non-introduction ou de la difficile introduction en France des queer studies.
Queer studies.
Ouais. Et avec exactement ces réticences institutionnelles, le discrédit sur ces études parce que liées au militantisme, etc. Et qui rappelle exactement ce qui s'est passé aussi sur les questions de genre. Donc je trouve que c'était. En plus, c'est un article que j'ai trouvé pas mal foutu. Et enfin, une question peut-être plus personnelle. Est-ce que les historiennes notamment et les historiennes comme toi, vous envisagez de documenter ce qu'a été cette histoire de l'introduction du genre par des travaux d'égo-histoire. C'est-à-dire aussi de refaire une généalogie de ces pratiques de recherche, comme par exemple Nathalie Zemon-Davis a pu le faire, du feu, tout flamme.
Zemon-Davis, ce n'était pas une égo-histoire, quand même.
Ou tu veux dire. Une étude d'égo-histoire, Corbin l'a fait,
En France aussi, la revue de Mnemosyne régulièrement publie des
moments
d'histoire, vraiment, justement, de cette génération d'historiennes des années 70, féministes, françaises.
Mais là, c'était aussi une réflexion dans à la fois Zemon-Davis et Corbin, qui était à la fois donc, de l'égo-histoire, mais toute une réflexion aussi épistémologique, de rapport à l'objectivité. Enfin, vraiment, il y avait tout un travail de reprendre tous ces grands sujets épistémologiques, quoi, vraiment sur, sur la question de l'objectivité, du rapport entre le militantisme et la science, notamment en France, où il y a toujours ces questions qui se posent de façon.
Alors, là, il y a deux choses. Moi, personnellement, je n'écrirai pas mon histoire. Je pense que c'est trop timide pour ça.
Mais des entretiens à chaque fois.
Bon, ouais. Alors là, il y a déjà un entretien. Il y a un programme qui n'a rien à faire avec l'histoire du genre, mais qui des collègues grecs qui un financement sur l'histoire de l'historiographie grecque. Et au sein de ce programme, ils ont effectué un certain nombre d'interviews filmées par des gens qui considèrent qu'ils ont apporté quelque chose dans les plus âgés, disons. Et là, ils m'ont demandé sur l'histoire du genre, notamment, et j'ai donné une interview qui est aussi dans l'internet, à l'internet.
Parce que du coup, ça devient intéressant, c'est-à-dire de reconnaître ton apport dans l'histoire du genre. C'est aussi une façon d'institutionnaliser, ou en tout cas de légitimer aussi les recherches.
Non, mais maintenant, il n'y a pas de problème de légitimer. Maintenant, tout est légitimé. Ouais. Tout est légitime. Et par rapport au queer studies, par exemple, que tu disais, il n'y a pas de queer studies en grec, en Grèce. Mais il y a des gens qui font des recherches sur ça, des anthropologues ou des historiens ou d'autres. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, au niveau de la de travailler sur l'histoire de ce mouvement, et nous sommes en train avec une amie, un collègue avec qui on a fait deux livres et plusieurs articles, on travaille beaucoup ensemble depuis plusieurs années, et qui n'est pas universitaire mais qui est une historienne très importante à mon avis, de faire l'histoire de la première phase du mouvement féministe grec. Mm-hmm. C'est-à-dire de faire une histoire de l'intérieur. Nous ne voulons pas faire une égo-histoire, mais nous voulons faire une histoire des choses dont nous étions des témoins. Si vous voulez, mais pas seulement de notre propre point de vue.
Pas l'ego individuel, mais
plus. Et voilà, et nous avons déjà commencé à faire des interviews avec des gens avec qui on a commencé le premier groupe de femmes à Paris et, en 1915, et qui à l'époque faisait partie de la jeunesse communiste de l'intérieur, comme on disait. Bref. Et, je ne sais pas ce qui va se donner, ce qui va donner. Enfin, c'est un large projet, on fait plusieurs autres choses. Mais ça nous intéresse de le faire, si tu veux. Et, sinon, rien d'autre n'est fait. Voilà.
Et puis, juste une demande. Tu as dit que jusqu'à aujourd'hui, il y a un master genre.
Hein? Il y a un master genre dans l'université de la mer Égée.
D'accord.
Femmes et genre.
Femmes et genre. Est-ce que ce master, enfin master, ou il débouche sur un doctorat?
Si les gens, c'est un master. Si les gens veulent faire un doctorat,
Un doctorat en genre ou voilà.
Parce non, un doctorat, ça se passe pas comme ça en Grèce.
Et j'aimerais bien savoir si le problème se pose pour nous.
Les masters ont un intitulé.
Oui.
Le doctorat est l'intitulé du département.
Donc, ils reviennent au département.
Voilà.
Et le master, il est transdépartemental?
Pas forcément. Ça peut être, mais aussi un département peut avoir plusieurs
masters. Mais le doctorat, il est doctorat en histoire.
Voilà.
Très bien.
Je voulais savoir sur philo, le mot que vous avez...
Philo.
Oui, philo. Pardon.
Oui, non, je vous en prie.
Est-ce que c'est un mot qui dépasse la binarité du sexe? Est-ce que ce mot vaut pour plus que deux sexes?
Il se peut.
La philo, c'est... Là, il n'est pas prononcé.
Il se peut.
Ce n'est pas homme-femme, c'est...
Ça, c'est le mot.
Dans la nature, si vous voulez, philo est... désigne soit le masculin, soit le féminin. C'est soit philo masculin, soit philo féminin. Arsenico-silico. Mais on parle aussi du troisième sexe. On parle aussi de l'intersexe. Alors, ça peut aussi, au niveau de la langue et de la formulation des dérivatives, je ne sais pas si c'est le bon mot, ça peut...
Philos, c'est le même mot qui dit sentiment amoureux.
Non, philos. Ah, philos. Avec un. Ça s'écrit autrement.
Ah, c'est pas le même philos.
Non.
C'est ça qui...
Il y a plusieurs d'ailleurs.
Non.
Il y a philos.
Oui.
Philos,
oui.
Qui veut dire ami.
Ami, l'amour.
Il y a philo, avec Y et deux L, qui veut dire le. Les feuilles des arbres, et il y a philo avec Y, avec, c'est pas Y, bref, et un L qui veut dire sexe ou genre.
Ok, bah,
voilà.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup.
Merci, Effie.
À vous.